Les radios francophones avec Benoît Audet au Canada, Nathalie Devic en Belgique, Alexis Guilleux de Réfi et Pierre Anchoffa pour la Suisse. Au Canada, Benoît Audet, c'est le metteur en scène Robert Lepage qui a retenu votre attention cette semaine.
Oui, son dernier spectacle, intitulé Slave, soulève une controverse. Ce spectacle présente des chants d'esclaves interprétés par une chanteuse blanche. Certains y voient donc une forme d'appropriation culturelle. Le soir de la première à Montréal, une centaine de manifestants en colère ont accueilli les spectateurs. Malgré la controverse, le spectacle est un succès au box-office. On a déjà ajouté de nombreuses supplémentaires pour répondre à la demande.
La Belgique, Nathalie Devic, s'est découvert un petit génie en cette période de remise des bulletins à l'école.
L'école, très peu pour lui, il s'y ennuyait. Alors Laurent, comme beaucoup d'enfants surdoués, a bénéficié d'un accompagnement individualisé. À 3 ans déjà, il savait parfaitement écrire. À 6 ans, il dévorait la saga Harry Potter. Et à tout juste 8 ans, il vient d'emmagasiner le programme scolaire en entier, un cursus de 12 ans en à peine un an et demi. Résultat, il s'apprête dès la fin de l'été à intégrer l'université avec 10 ans d'avance. Plus tard, sans doute très bientôt à son rythme, il veut devenir informaticien, neurochirurgien ou encore astronaute. C'est sûr qu'avec son QI de 145, Laurent a de quoi viser les étoiles.
En Afrique, Alexis Guilleux, c'était la figure du mouvement marocain du Irak. Nasser Zefzafi a été condamné à 20 ans de prison.
Un verdict après un procès fleuve de 9 mois entre 2016 et 2017 au fil des manifestations populaires dans la région du Rif. Nasser Zefzafi s'était imposé comme le visage de ce mouvement du Irak. Une contestation pour demander le développement de cette province du nord du Maroc. Parfois critiqué pour sa virulence, l'ancien chômeur de 39 ans avait été arrêté pour avoir interrompu le prêche d'un imam. Cette semaine, la cour de Casablanca l'a condamné à 20 ans de prison comme les 3 autres meneurs de ce mouvement pour atteinte à la sûreté de l'État.
Le capitaine de l'équipe suisse de football, Pierre Anchoffa, ne participera pas aux huitièmes de finale face à la Suède.
Élément déterminant sur le côté droit avec son compère Shaqiri, le parfois trop fougueux Stefan Lichtsteiner a en effet pris un second carton jaune face au Costa Rica, synonyme de suspension pour le prochain match. Un joueur déjà amendé par la FIFA avec ses 2 coéquipiers d'origine kosovare. Les 3 avaient mimé l'aigle bicéphale albanais lors de la victoire contre la Serbie. Stefan Lichtsteiner ne peut donc plus que rêver que son équipe batte la Suède pour pouvoir disputer lui aussi un nouveau match dans cette Coupe du Monde.
Mes chers collègues, mesdames, messieurs, c'est un très grand honneur que vous m'avez fait en m'appelant à la présidence du Parlement européen. Aussi, l'émotion qui est la mienne, en prenant place à ce fauteuil, est-elle plus profonde que je ne le saurais l'exprimer.
C'était en 1979, Simone Veil, très émue de son élection à la présidence du Parlement européen. Elle y défendra des positions fédéralistes et supranationales. Première femme à accéder à la présidence de l'Europe et 5e femme à entrer au Panthéon dimanche en compagnie de son cher mari Antoine Veil. Simone Veil est morte en juin dernier. En 1944, elle avait alors 16 ans. Elle était arrêtée par la Gestapo avec sa famille, puis déportée à Auschwitz. Après la guerre, elle se marie avec Antoine. Ensemble, ils auront 3 fils et Simone devient magistrate. Sa carrière politique n'a véritablement commencé qu'en 1974, lorsqu'elle devient ministre de la Santé. C'est là qu'elle fera adopter une loi qui porte désormais son nom, la loi de la légalisation de l'avortement. En 2010, Simone Veil entrait à l'Académie française. Avant la cérémonie du Panthéon, son cercueil et celui de son mari sont exposés au mémorial de la Shoah, dont elle était l'un des membres fondateurs. Si elle s'est tue longtemps sur le cauchemar des camps de concentration, elle a eu ensuite le souci de faire témoigner les victimes et les témoins. Elle reposera désormais aux côtés de Jean Moulin, Jean Monnet ou André Malraux. Le président Macron saluera sa mémoire. Les 2 cercueils remonteront jusqu'au Panthéon sur une moquette bleue, couleur de la paix, de l'ONU et de l'Europe. L'été est déjà bien installé, c'est une période où les débats politiques font relâche habituellement, mais pas au Québec. On sait déjà qu'il y aura des élections le 1er octobre prochain et Benoît Audet, même si la campagne électorale ne sera lancée officiellement qu'à la fin août, dans les faits, elle est déjà bel et bien commencée.
Oui, la session parlementaire s'est terminée il y a 2 semaines à l'Assemblée nationale, mais tous les chefs de parti sont bien visibles sur le terrain et on a d'ailleurs senti tout au long de la session parlementaire que les chefs avaient les yeux bien davantage sur l'échéance électorale que sur le calendrier législatif.
Donc les élections sont dans un peu plus de 3 mois. Est-ce qu'il y a déjà des tendances qui se dessinent?
Oui, la Coalition Avenir Québec, un parti fondé il y a quelques années par son chef François Legault, a le vent dans les voiles et est bien installé en première position des sondages depuis plusieurs mois. Les libéraux du premier ministre Philippe Couillard, qui sont au pouvoir depuis plus de 15 ans, à part un bref intermède de 2012 à 2014, ils sont présentement en deuxième position et ils ont une grosse pente à remonter, surtout que de nombreux députés ont déjà annoncé qu'il ne se porterait pas candidat aux prochaines élections. Le Parti québécois, dirigé par Jean-François Lisée, qui forme l'opposition officielle, est en troisième position. Et finalement, le Parti de gauche, Québec solidaire, il ferme la marche et espère récolter quelques sièges de plus à l'Assemblée nationale. Mais bon, il reste encore plusieurs semaines avant le fil d'arrivée. Bien des choses peuvent changer. On l'a vu lors d'autres campagnes électorales. Nous aurons certainement l'occasion d'en reparler à la rentrée.
En Belgique, Nathalie Devic, c'est un imbroglio à la belge qui vient compliquer le code de la route et le permis de conduire en cette période de grand départ en vacances.
Pour qui en doutait encore, rien n'est simple dans notre petit royaume. 3 communautés, 3 régions et autant de fois plus de pouvoir partagé au sein des différents gouvernements, aux divers échelons. Pas toujours facile du coup de s'y retrouver entre les matières qui appartiennent toujours au fédéral et celles qui se voient régionalisées, parfois totalement, parfois partiellement, pour corser encore un peu les règles. Le permis de conduire n'y échappe pas, à régionaliser depuis la 6e réforme de l'État. Il compte, dès ce 1er juillet, un examen pratique supplémentaire. Mais juste en Wallonie, et oui, un certificat d'aptitude pour une petite centaine d'euros de plus. Résultat, il y a désormais en Belgique 3 façons de passer son permis, en fonction de sa région. C'est une très mauvaise idée pour le président de la Fédération des auto-écoles, Hugues Cherpion.
Qu'on réforme certaines choses, peut-être à la marge, comme certaines limitations de vitesse sur certaines routes régionales, pourquoi pas. Mais de là à réformer la conduite, la formation, la conduite et le permis de conduire dans ces différents aspects, ça me semble un petit peu aller trop loin et c'est pas dans l'objectif de simplification administrative que veut l'État belge dans son ensemble. On va avoir 3 systèmes de permis de conduire différents. Bientôt, on aura aussi 3 codes de la route différents avec diverses modalités. Dans les diverses régions, ça devient assez compliqué.
Et dans cet imbroglio, les auto-écoles regrettent d'être en plus très mal informées. À quelques jours du changement, les moniteurs ne connaissaient par exemple toujours pas les nouvelles manœuvres à effectuer. Un flou total qui pousse même pour l'instant les candidats au permis à postposer leur examen. Mais pas d'inquiétude si vos pérégrinations vous poussent à passer par notre, par ailleurs, très beau pays pendant ces vacances.
On n'en dit pas.
Notre code de la route, lui, Patricia, n'est pas encore chamboulé, quelles que soient les régions traversées.
L'actualité africaine avec RFI, il n'y aura pas d'équipe du continent en 1/8 de finale de la Coupe du Monde de football, Alexis Guilleux.
Une contre-performance historique pour la première fois depuis 1982. Aucune sélection du continent ne passe le premier tour de la Coupe du Monde. Cette année, les derniers espoirs reposaient sur le Sénégal. Mais les Lions de la Teranga se sont inclinés 1-0 face à la Colombie. À Dakar, mais aussi à Moscou, la déception était immense jeudi soir pour les supporters qui avaient fait le déplacement.
On peut considérer qu'on s'est fait éliminer par nous-mêmes. J'ai plus les mots. C'est la vie, hein. Peut-être qu'on n'est pas fait pour prendre une coupe, peut-être, je ne sais pas.
Les dieux du football n'étaient pas avec nous aujourd'hui. On félicite la Colombie. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas de représentant africain au 2e tour. C'est la loi du football.
Sénégal, Maroc, Nigeria, Tunisie, Égypte, cela fait donc 0 sur 5 pour les équipes africaines engagées dans ce mondial. Mais pas d'inquiétude pour Aliou Cissé. Le sélectionneur sénégalais estime que le football du continent ne cesse de s'améliorer.
Le football africain est en train de progresser. On n'abandonne pas. Regardez les autres équipes. Je crois qu'on n'a pas à avoir honte du football qu'on a pratiqué. Le niveau a beaucoup rétréci entre les équipes du tableau, les soi-disant grandes équipes et puis les petites équipes. Donc je suis sûr et certain que nous sommes sur le bon chemin.
Et à ce jour, jamais une équipe africaine ne s'est qualifiée pour les demi-finales d'un mondial de foot. Les meilleures performances restent celles du Cameroun en 1990, du Sénégal en 2002 et du Ghana en 2010, tous stoppés en quart de finale.
Les Suisses pourront bientôt remplir leur devoir de citoyen par Internet. Le gouvernement veut en effet généraliser cette 3e possibilité de voter, Pierre-Anne Chauffard.
Les Suisses qui s'expriment au moins 4 fois par année sur différents objets ne se rendent déjà plus beaucoup aux urnes le dimanche matin. La grosse majorité renvoie par la poste le bulletin qu'il a reçu directement à la maison. Depuis la généralisation du vote par correspondance, la participation est remontée alors qu'elle s'érodait depuis des années. Pas impossible donc que cette nouvelle possibilité, le vote en ligne, décide davantage d'électeurs à participer au scrutin. On pense notamment à la jeune génération qui s'exprime moins que les plus de 40 ans.
Et qu'en est-il de la sécurité, Pierron ? Est-ce que les risques de fraude sur Internet sont majeurs, non ? Enfin, c'est ce qu'on se dit.
Oui, ça fait bientôt 15 ans que des essais pilotes sont menés. Selon les experts mandatés par le Conseil fédéral, le vote électronique serait sûr et fiable grâce à la cryptographie. Mais vous avez raison, des politiciens ne veulent pas qu'on franchisse ce pas. L'écologiste zurichois Balthazar Gletli craint que les résultats soient régulièrement contestés pour suspicion de fraude.
Il est important de convaincre le perdant qu'il a bel et bien perdu, qu'il accepte le résultat. C'est pourquoi cette confiance dans les modalités des votations est clé, notamment dans ce temps du fake news qui sont distribués par biais des réseaux sociaux. Mais je crois qu'on ne se trompe pas du combat si l'on dit qu'il faut rester à un mode traditionnel des votations et des élections.
Cela dit, la majorité du Parlement devrait suivre le gouvernement dans sa volonté de faciliter la vie des citoyens. Et si la révision de la loi sur les droits politiques est au final combattue par référendum, eh bien le peuple tranchera à l'ancienne, au bureau de vote ou par correspondance.
Merci Benoît Audet, Nathalie Devic, Alexis Guilleux et Pierre Anchoffol. Les radios francophones s'éclipsent pour quelques semaines. Nous nous retrouvons à la rentrée.